se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de pommes Pink Lady est à seulement 1,99€.
À ce prix-là, je tombe dans les pommes.
1,99€, c'est un prix qui ne rigole pas.
Et en plus, elles sont origine France.
Comme toutes nos pommes, c'est ça, le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 1,99€, le kilo de pommes Pink Lady, origine France, variété Crips Pink, catégorie 1, calibre 170, 201 grammes. Existe en Barket Kids ou 6 fruits. Valable dans vos magasins et drive, Auchan participants et en livraison à domicile.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules en direct tous les jours. Vous avez raté le début des GG, vous avez l'application RMC, notre site internet rmc.fr pour pouvoir récupérer le début de l'émission via les podcasts. À 11h20, on reparlera du cas de Didier Raoult, le professeur de l'IHU de Marseille. Vous avez vu qu'il y a une tribune qui demande des sanctions contre Didier Raoult pour ce qui est appelé les essais sauvages au moment du Covid. Alors, est-ce que c'est de l'acharnement contre Didier Raoult? Oui, pour Charles et Kauter. Non, pour Jérôme et Olivier. Et c'est vous qui venez départager ce match au 32-16. Didier Raoult, qui était il y a quelques minutes l'invité d'RMC, de BFM TV, pardon. Et il a répondu et réglé ses comptes avec ses éminents confrères. On écoutera ses réponses au professeur Raoult tout à l'heure à 11h20. En attendant, on parle du à vous de choisir. On parle immigration, les Républicains et la majorité.
RMC, les grandes gueules.
À vous de choisir.
Tu sais, des fois, dans les mariages, on se trompe de partenaire.
LR et la majorité vont-ils se marier au nom de la politique, au nom de la loi, future loi sur l'immigration?
Pour l'instant, la mariée était en noir, si j'ose dire, puisque on a d'un côté Gérard Darmanin qui voudrait que la droite vote son projet. En schématisant, le projet Darmanin, c'est de dire on va être plus ferme sur les reconduites à la frontière, mais en même temps on va régulariser les immigrés qui sont dans les métiers en tension. Hein, voilà, en gros c'est un peu en même temps. La droite dit on est contre les régularisations parce que c'est un appel d'air. En revanche, on est d'accord avec la fermeté. Voilà, donc on en est là, et par journaux interposés, ils essayent de trouver un accord avec les fameux chiches, hein, donc Retailleau, Marleix et Ciotti avaient dit chiche à la une du JDD, et ce week-end, à la une du Parisien Aujourd'hui en France dimanche, Darmanin a répondu chiche. Le problème de Darmanin, c'est qu'il y a une aile gauche dans la Macronie qui commence un peu à se faire entendre. Pendant 5 ans, on ne les a pas entendus parce qu'il n'y avait qu'une personne qui parlait, c'était Emmanuel Macron. Mais là, comme il ne peut pas se représenter, on voit bien que certains sont en train d'un peu de sortir du lot. Et Sacha Houlier, qui est un peu le représentant de cette aile gauche de la Macronie, président de la Commission des lois, dit « Ah non, attendez, pas de question, on ne va pas faire un projet de la droite extrême, etc. » Donc Darmanin, il risque de perdre d'un côté ce qu'il est en train de gagner de l'autre. Est-ce que vous y croyez à ce mariage? Est-ce que c'est un mariage nécessaire pour régler le problème de l'immigration en France?
Alors, est-ce que LR doit s'allier à la majorité sur la question de l'immigration, Charles?
Non, je crois pas.
D'abord, je déplore, si vous voulez, le problème des Républicains, c'est que ils se sont laissés ringardiser ces dernières années d'une manière dramatique. Ils n'ont pas su faire émerger des nouvelles têtes. Ils ont fait une campagne sans idées fortes, sans idées grandes, et ils ont beaucoup de mal à s'adresser aux Français. Et je suis un peu désolé de voir qu'ils n'ont trouvé comme idée pour se relancer que de reparler encore d'immigration. Je ne dis pas que le sujet n'est pas important. Le sujet est éminemment important.
Il est mis
important
sur la table par le gouvernement. Hein. C'est le gouvernement qui met ce sujet sur la table.
Je comprends bien, mais vous savez, c'est Paul Bocuse qui disait que pour le succès, il faut deux ingrédients, la qualité et la créativité. Et je ne vois aucune créativité du côté des Républicains. J'aurais attendu, si vous voulez, qu'ils surprennent, qu'ils aillent sur des terrains inattendus. Et même si j'avais de la sympathie, comme je l'ai dit ici, pour cette interview de trois mâles blancs de plus de 50 ans qui ne jugeaient pas nécessaire de mettre parmi eux une femme ou une personne d'origine étrangère ou LGBTQ+, etc. pour cocher les cases débiles de notre époque de décérébrés. Je déplore que il n'ait pas fait preuve de plus de créativité. Et donc, après, sur le fond, il y a des mesures avec lesquelles je ne peux qu'être d'accord, notamment le rétablissement de la double peine qui me paraît être une nécessité. Quand vous commettez un crime ou un délit en France et que vous êtes de nationalité étrangère, c'est normal que vous soyez expulsé du pays. 25% des détenus sont étrangers, par exemple. Et donc, je ne suis pas hostile. Je ne vois pas le problème qu'il y aurait à ce qu'ils trouvent un accord avec Macron sur ce terrain-là. Ils n'ont pas forcément à être dans une opposition bête et méchante. Je pense d'ailleurs, en vrai, que la petite chevauchée solitaire d'Aurélien Pradier sur la question des retraites a plutôt fait du mal aux Républicains que du bien parce qu'elle a brouillé le message de la droite. Donc là-dessus, je ne vois pas le problème, mais je les conjure
de
faire preuve de créativité, de se creuser le cerveau, d'ouvrir les portes et les fenêtres, comme disait Copé déjà à l'époque, pour ne pas être en permanence dans un truc qui finit par ressembler à de la naphtaline.
Et tu trouves que le flirt perpétuel de M. Ciotti avec les idées d'extrême droite n'est pas dangereux, ne brouille pas le message pour les Républicains et pour le pays tout court, en fait? Moi, c'est ça qui me dérange. Dépend. Au départ, pour moi, la droite, c'est des libéraux.
Mais il y en a des libéraux à droite.
Et aujourd'hui, en fait, j'entends parler que d'immigration à droite. Et donc, j'arrive pas à faire la différence entre Zemmour, Le Pen et la droite, en fait. Tu m'excuseras, mais il n'y a pas grande différence. Même si je ne suis pas d'accord avec les idées de droite, on ne me parle que d'immigration à droite.
Le gouvernement doit tout faire pour obtenir. Sinon, ça sera le 49.
Non, mais excusez-moi, mais là, c'est pas un mariage, c'est un enterrement.
Pourquoi ?
Il ne faut pas tout confondre. Mais parce que quand la droite demande au LR, à Renaissance et au parti présidentiel de faire alliance, mais c'est un enterrement, parce qu'elle va disparaître, elle va se faire absorber.
Je suis pas sûr.
Quand t'es 60 et que tu demandes à un groupe qui fait deux fois, trois fois ta taille de t'absorber, tu auras plus d'existence propre. C'est une évidence. Ils ont déjà bouffé la moitié de la droite, ils boufferont le reste. Je veux dire, ils doivent avoir faim, ils ont un appétit terrible. Quand ils voient ça, ils doivent se lécher les babines, quoi. Ils leur offrent ni plus ni moins la faim complète
mais tu sais,
de la droite.
Il y a une qu'est-ce autre expression connue qui dit que le verre est dans le fruit.
Non, mais qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Tu l'as dit toi-même. Ils n'ont pas d'existence propre. Ils sont incapables d'avoir une existence propre. Et donc, quand ils lancent un appel en disant « faisons alliance », c'est ni plus ni moins « sauvez-nous, s'il vous plaît, parce qu'on n'est pas capable de vivre tout seul ». Ils n'ont aucune capacité à développer ce parti qui n'a fait que végéter et petit à petit descendre depuis que Macron est arrivé. Ils ont eu le temps quand même, on est au deuxième mandat présidentiel. En deux mandats présidentiels, on est au début du deuxième, mais en six ans, il me semble qu'ils auraient eu le temps de développer leur parti. Ils n'ont rien fait.
Parce qu'ils avaient le choix entre deux, et ils n'ont pas choisi. Soit il faut passer un accord de gouvernement, comme dans toutes les démocraties parlementaires, quand il n'y a pas de majorité absolue, on se met d'accord sur un programme et on gouverne ensemble.
Mais ça a été fait dans le passé, Chirac.
C'est pour ça, par exemple, qu'en Espagne, en ce moment, le PS est avec Podemos, en gros les insoumis. C'est pour ça qu'en Allemagne, il y a une coalition très large entre la droite, la gauche et les écolos, etc. Il fallait faire cette coalition droite Renaissance. La droite en a pas voulu. Sarkozy a tout fait pour y arriver avec Emmanuel Macron. Ciotti et les autres n'en ont pas voulu en disant si on fait ça, on est mort. Donc quand tu dis non, t'es dans l'opposition. Donc effectivement, tu ne votes pas le projet de loi immigration.
Oui, excusez-moi.
Sinon, c'est incompréhensible. Soit tu gouvernes avec eux, soit t'es dans l'opposition.
Non, mais excuse-moi.
Et tu expliques, et d'ailleurs c'est facile de dire, que le projet Darmanin, finalement, c'est un peu de l'eau tiède, que tu veux. Et en plus, t'as plutôt ton électorat pour toi, parce que l'électorat de droite, il va être ferme sur ces questions. Non. Il rejette plutôt le projet Darmanin.
Mais s'il devait y avoir coalition, il devait y avoir coalition
c'est
entre
ça,
la majorité.
Le choix des Républicains, il n'y en a pas d'autre.
Il devait y avoir coalition entre la majorité et LFI ou avec le RN. Je suis désolée, ils ont fait 4%. En présidentiel, tu veux faire coalition avec quoi? Donc en général, quand tu as coalition, c'est avec le deuxième et le troisième.
Non, législative, ils ont plus de députés que les insoumis. Hein, pardon. Si on prend que les insoumis, il y a plus de LR que d'insoumis.
Mais si tu prends la NUP, non? Non,
oui, mais je rebondis sur ce qu'a dit Charles. Où est la création, quoi? Moi, je serais en attente au bout de 6 ans de la part des LR, de nouvelles têtes qui arrivent.
Ils n'ont plus de jus, ils sont fatigués,
etc. Il n'y a plus de jus, exactement.
Ils sont fatigués. Et tu vois, c'est des mecs comme toi, je l'ai dit à plusieurs reprises, même si je suis pas de droite, c'est des mecs comme toi qui doivent comprendre. J'en ai marre de voir ce type.
Tu verrais, cher Kauter, l'énergie que déploient ceux qui n'ont plus de jus pour empêcher d'exister ceux qui en ont, tu serais surprise. Ça, du jus, il leur en reste pour boucher les accès.
Mais non, il y a des Charles, il y a des Rafik Smati, il y a les David Lister, il y a tout un tas de têtes qui peuvent monter.
La
t'as toujours les mêmes classiques qui se mettent en avant.
De la même manière, je considère que c'est même comme Jean-Luc Mélenchon.
Suivez à eux de se faire.
Suivez dans la presse spécialisée bien informée les négociations pour les européennes et les sénatoriales. Oui. vous verrez qui joue des coudes pour être aux européennes ou aux sénatoriales. C'est pas exactement
je
du 109.
De la même manière que je considère que des mecs comme Jean-Luc Mélenchon, qui ont 45 ans de mandat, sont responsables de la mort de la gauche, je considère aussi que les cadres DLR sont responsables de la mort de la droite. Et ces gens-là ne savent pas renouveler leur parti, ne savent pas se renouveler et ne savent pas laisser la place. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, on a un FN qui est le deuxième parti de France et c'est inquiétant et c'est aussi grâce à ces gens-là.
Non, mais pardon, mais à aussi en politique, on te fait jamais la place.
Fait jamais la
place. Je suis désolé, Nicolas Sarkozy. Oui, mais
il
n'a pas attendu que Jacques Chirac lui dise,
vas-y,
prends ma place. Une Sarkozy, il a fait en sorte de d'occuper le terrain.
C'est vrai.
Et d'autres avant, François Mitterrand.
Oui, mais regarde,
le contexte n'était pas le même.
Olivier, avec tous les défauts qu'il a, on peut reconnaître à Macron d'avoir fait un effort sur le casting pendant son premier premier quinquennat. Il a fait un vrai effort de renouvellement. Je me souviens d'ailleurs que tous les anciens du PS, Valls, Ségolène Royal, etc.,
tapaient
à la porte. Ils étaient quand même en plus à l'époque, ils étaient plus en haut de l'affiche que maintenant. Oui. Et Macron a dit non, je ne veux pas de ces gens de l'ancien monde, comme il disait à l'époque. Donc il a fait un effort de renouvellement. On est dans une époque où il faut faire du renouvellement.
Exactement.
Marine Le Pen avec Jordan Bardella, elle a fait un pari qui s'est avéré gagnant. Il parle à toutes les couches de la population, tous les milieux sociaux.
Députés, elle a renouvelé.
J'ai dit une bêtise tout à l'heure. Il y a plus de députés insoumis que députés. J'ai vérifié.
Ah, oui,
il y en a 74 et des députés républicains.
Comme ils travaillent deux fois moins.
Peu importe. Si tu veux,
ceux de LR compte double.
Non, mais tu sais que je ne suis pas pro Mélenchon. Mais je ne parle pas des insoumis, je parle de Mélenchon en particulier. Mais si tu dois faire une coalition, tu dois la faire avec le deuxième, voire une partie des troisièmes.
Alors, Ornel est avec nous. Bonjour, Ornel.
Que pense gens de chez LR que les insoumis.
Alors, Ornel, est-ce que LR doit s'allier avec la majorité dans le cadre du projet de loi sur l'immigration ?
Dans tous les cas, ils vont être décriés. LR est un parti qui manque actuellement d'innovation, qui manque de dynamisme. Du coup, s'ils ne font rien, on dira c'est LR, ils continuent à rester dans leur tombe. S'ils s'allient avec la majorité, ils vont creuser leur tombe auprès des Français. Le problème de LR, c'est un parti qui doit être relancé. Et effectivement, on retrouve des mêmes têtes, les mêmes discours. Moi, je prends l'exemple à Paris, Dati qui relance pleinement les LR. Hein. Dati à Paris, c'est une unanimité auprès des Parisiens. Il faut vraiment relancer ce projet parce que là, il laisse le gouvernement dicter le calendrier politique. Donc, ces chiches, moi, je répondrai à leur place avec un autre chiche. Parce qu'il ne faut pas répondre à ce que le gouvernement dicte. S'ils veulent montrer un mécontentement, ce qui est le cas des Français, d'une majorité de Français, il ne faut pas juste suivre et les dicter, les laisser être les maîtres des horloges, comme on l'a souvent répété. Donc moi, c'est là le problème que j'ai avec LR, c'est qu'effectivement, la majorité est en train de tuer toute opposition. Et Marine Le Pen avec Bardella reste dans leur coin. Se font petits, parlent de sujets qui touchent les Français.
C'est
malheureux parce que moi, j'ai échangé avec des jeunes de mon âge qui maintenant n'ont aucune crainte à voter RN, à voter Zemmour, parce qu'ils sont contre Macron. Et ça me pose problème. Parce qu'on vote toujours contre quelqu'un.
Donc il faut une droite qui soit farouchement opposée à Emmanuel Macron et qui puisse récupérer les gens qui sont tentés par Marine Le Pen et Zemmour.
Ils prennent mais sur quelle ligne ?
Sur une ligne d'opposition.
Oui, mais
c'est pas compliqué parce qu'on peut pas dire que le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron brille par sa cohérence, son engouement. Enfin voilà.
Donc oui, mais c'est une ligne de proposition et de construction, mais ils en sont incapables. C'est ça le problème, si tu veux.
Voilà.
Ils ne sont que dans la réaction et maintenant ils sont même plus capables dans la réaction.
C'est pas difficile aujourd'hui d'être plus libéral qu'Emmanuel Macron qui est devenu un étatiste.
C'est un peu ce que fait Wauquiez quand même, ce que tu décris.
Allez-y, Ornel.
Je pense que c'est la seule ligne possible.
Faut qu'ils innovent. Le problème, c'est qu'on n'est plus stimulé. C'est plus vendeur. Ils proposent rien. Ils sont passifs. Et du coup, on les met comme complices maintenant. Les partis qui restent passifs sont complices
ce qui est assez dingue,
je vais vous livrer une réflexion dans la Pravda de droite, qui est le Figaro.
Immigration, l'introuvable accord entre Macron et les Républicains. Et tu parlais de ceux qui ne veulent pas décrocher. T'as Brice Hortefeux qui lâche cette phrase. Sans LR, rien ne peut se faire. Avec LR, tout est ouvert.
Mort de rire.
Une fois que t'as dit ça,
c'est la voix de Sarkozy.
Il n'y a rien. Et là, Charles tombe à la renverse.
Non, mais c'est de la sympathie pour les uns et les autres, mais il faut
baisser. La vision autoréalisatrice, ça.
Mais bon. Monsieur Consigny, le problème, c'est que vous l'avez connu, ce parti. Il faut le changer. Il faut le changer. Et le parti même perd en crédibilité auprès des Français. Il crache sur Sarkozy actuellement, alors que Sarkozy était un chef chez eux.
Il leur a bien savonné la planche quand même à la présidentielle.
Ça, effectivement. Non, mais ce qui est fou.
Il leur a savonné la planche, mais on ne peut pas, maintenant, retourner vos verres.
Franchement, il aurait pu rester neutre.
Il a choisi Macron. Il est devenu macroniste, Nicolas Sarkozy.
Ce qui est fou, si vous permettez, c'est lui qui dit que les Républicains doivent s'allier avec Emmanuel Macron.
Mais Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, il est macroniste. Il pourrait prendre sa carte chez Renaissance.
Ornel, merci d'avoir été avec nous. Allez, tiens, on va regarder là sur ce petit quart d'heure. Allez, vas-y, je te laisse 10 secondes.
Non, je disais, ce qui est fou, c'est qu'on est en train de changer de société. Fondamentalement, entre l'intelligence artificielle, entre le choc climatique qu'on prend dans les dents, etc. Donc c'est vraiment le moment pour que surgissent des idées politiques. Et ils n'ont rien. C'est un loupé
là,
total.
Là, franchement, si sort du chapeau, peu importe le parti, un homme ou une femme charismatique, avec deux, trois mesures, tu vois, qui sont fortes, qui parlent au français, mais ils raflent tout et ils les enterrent tous.
J'ai dit charismatique. Les LR doivent-ils s'allier avec la majorité? Alors, qu'est-ce que vous en pensez, là, depuis un quart d'heure qu'on en parle? Oui, non. Non! Voilà. Non, 65%.
Mais oui, parce qu'elle est rejetée, cette majorité.
C'est bon sens.
Il faut d'ailleurs qu'ils entendent ce deux tiers, un tiers, qui est systématique dans tous vos sondages. Oui. Dès qu'il est question de, en majorité. Gros, est-ce qu'il faut aller avec Macron ou pas? Et que vous avez toujours deux tiers qui dit niette.
C'est ça.
Il faut entendre ce message. Ça veut dire qu'en fait, la Macronie, elle est carbonisée. Il faut s'en éloigner le plus possible.
C'est ce que je te dis.
Allez, dans un instant, le professeur Raoult. Est-ce qu'on s'acharne contre le professeur Raoult avec cette tribune qui demande des sanctions fermes contre l'homme qui a fait des essais sauvages, alors que lui dit qu'il a sauvé des vies, à Marseille?
C'est vrai.
Oui, c'est de l'acharnement, disent Charles et Cauter. Non, il faut le sanctionner pour Jérôme et Olivier. À tout de suite avec les grandes gueules au 32-16.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, RMC, RMC Story. N'oubliez pas les podcasts sur notre appli RMC, sur le site internet rmc.fr. Puis il y a les petits indiscrets des podcasts aussi, quand on laisse les micros ouverts à la pub. Ainsi, vous pourrez entendre Cauter raconter à Olivier Truchot les 30 ans.
Elle est encore plus bavarde en rentrée.
Les 30 ans de la victoire de l'OM
elle
en Ligue pareille, des Champions.
Parce que c'est ça la particularité d'une grande gueule, c'est qu'elle ne triche pas. Cauter est dans la vie comme elle est.
Mais Martin n'a pas d'accent en rentrée.
Comme je disais à Karim Nedjari, notre patron, la seule constante que j'ai, c'est d'être constante en toutes circonstances.
Et Charles, il est pareil aussi.
C'est vrai.
Aussi puissant.
Et Jérôme aussi.
Oui. Et encore, Jérôme, il a plus d'accent.
Tu peux parler sans accent? Tu peux arriver à parler sans accent?
Non. Honnêtement, non.
Pourquoi tu vas se mettre en Paris?
Non.
C'est l'heure.
Mais si tu parles en patois?
C'est pire.
Tu parles patois?
Avec tes patients, tu parles patois parfois.
Un peu.
Ah oui, vas-y.
Qu'est-ce que c'était quoi pour autre? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a quelques expressions.
Au moment où il est bien
proche.
Au moment où il
rapproche.
Sur fatale. Derrière. Donne l'extrême onction en patois.
Il appelle ça la corrida.
Vous allez entendre l'accent du camarade Marty, celui de Cauter aussi là maintenant, parce qu'on va parler de Marseille, du professeur Raoult.
RMC.
GG, 7 et match.
C'est une tribune qui a été publiée dans le quotidien Le Monde, tribune signée par bon nombre de médecins, avec les instances médicales aussi. Elles sont revenues sur la période Covid et elles ont dénoncé ce qu'elles appellent les essais thérapeutiques sauvages menés sur des milliers de patients atteints du Covid. Et c'est à l'initiative du professeur Molinard, qui est le chef du service de pharmacologie Molinard, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Molinard. En fait, il dit c'est pas possible. Il faut des sanctions sévères contre Raoult, qui pendant un an a continué de faire des essais avec son hydroxychloroquine, son ivermectine, etc. Alors que on avait prouvé leur inefficacité, dit le professeur. Et on a mis la vie de gens en danger, dit aussi ce professeur, disent les instances médicales. Les réponses du professeur Raoult ce matin face à Bruce Toussaint sur BFM TV.
Au taux de mortalité à l'IHU, des patients hospitalisés, c'est 10%. Toutes les séries qui ont été publiées en France sur les taux de mortalité ont des taux de mortalité supérieurs à 20%. Vous savez, pour les plaintes, je vous assure, il y a beaucoup plus de plaintes. Il y a eu beaucoup plus de plaintes contre M. Véran que contre moi. Eh bien, il y a des gens qui veulent m'envoyer en prison, moi. Et il y a des gens qui veulent envoyer en prison les gens qui ont fait l'inverse. Moi, je veux envoyer les prisons ni les uns ni les autres, mais je serais content que la justice s'en mêle. Je pense que la justice doit s'en mêler parce que actuellement, on a eu une trop grande convergence entre le gouvernement, l'Assemblée nationale et la presse générale, et que ça n'est pas sain. Il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs, il faut qu'il y ait des débats. Et je pense qu'un certain nombre de décisions qui sont prises sont des décisions qui sont autoritaires et qui n'ont pas de substance scientifique.
Voilà ce que dit le professeur Raoul qui répondait donc ce matin sur BFM TV. Alors, est-ce qu'on s'acharne contre le professeur Raoul ? Oui ou non ? Une équipe dit oui, Charles et Kaouté. Une équipe dit non avec le docteur Marty et Olivier. Non, la parole au docteur Marty, c'est parti.
Non, rapidement, juste pour répondre à ce que vient de dire le professeur Raoult, qui demande des débats. Et on serait très heureux qu'il accepte de débattre, parce que depuis 3 ans, il a refusé toutes les confrontations, y compris lors de son passage devant le Sénat. Il a refusé de répondre à des questions. Ce matin, face à Bruce Toussaint, on lui propose de passer un extrait du professeur Molimar. Il dit, si vous faites ça, je m'en vais. Il nous parle du taux de mortalité à l'IHU, mais évidemment qu'il est bas, le taux de mortalité à l'IHU. Il n'y a pas de service de réanimation à l'IHU. Où voulez-vous que les gens meurent ? Quand il fait des études, il donne l'hydroxychloroquine à des jeunes bien portants, et dans le bras en face, il ne donne pas à des malades qui sont à risque, cardiaques, etc., et vieux. Évidemment que ceux-là meurent plus que les autres. Donc tout est comme ça, bidonné. Alors on pourrait en rire, presque en pleurer, hein, parce que ça fait 3 ans, en fait, qu'il fait mal à la science, quoi. Ça a été un grand chercheur. L'IHU, ça devait être un phare de l'infectiologie en France. Il en a fait quoi ? Une boutique qui a fait des tests. Et qui a fait des tests, pourquoi ? Parce qu'il était le seul à avoir des tests au départ. Alors il a testé. Ce qu'ont fait ensuite tous les laboratoires et toutes les cliniques et tous les hôpitaux de France. Il a fait un peu en avance. Et ensuite, il a continué à distribuer l'hydroxychloroquine, alors même qu'il était interdit d'adoler, puisqu'il avait été prouvé scientifiquement qu'elle n'était non seulement pas efficace, mais en plus dangereuse dans cette pathologie. Nous disant, il y a des milliards de personnes qui prennent l'hydroxychloroquine. Bien sûr, mais pas dans la Covid. Et puis, il y a eu une influence mondiale, à la fois au Brésil et aux USA, avec quantité de morts. Et aujourd'hui, il y a des procès au Brésil où on demande des centaines de millions d'euros à ceux qui ont prescrit l'hydroxychloroquine. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, ah mais on a suivi le protocole du grand professeur.
Silence pour la France !
Comme le dit Christian Lehmann, comme il a dit sur BFM hier soir, je termine, on a exporté notre connerie.
Bon.
Voilà, c'est fait. Alors, réponse,
c'est les 60 secondes du Sud.
Kauter va détruire l'argumentaire de
professeur Kauter.
Quand tu dis qu'il a fait mal à la science, moi, en tant que Marseillaise, parce qu'il faut recontextualiser, pendant le Covid, où les soignants étaient avec des sacs poubelles, où Agnès Buzyn nous disait que le masque ne servait à rien, etc., où toutes les absurdités ont été dites, qui ont été ensuite, voilà, on a appliqué tout le contraire. Donc, quand tu dis qu'il fait mal à la science, moi, je te dis qu'il a fait du bien aux malades, parce que quand les morts tombaient, malheureusement, en France, à Marseille, les gens étaient soignés, notamment...
Mais non, ils n'étaient pas soignés.
Je termine, je ne t'ai pas coupé pendant tes 2 minutes ou 3. Donc, ceci étant dit, moi, je considère que le vaccin a été un test et qu'il est toujours, puisque je te rappelle à toutes fins utiles, et tu le sais en tant que médecin, qu'il ne protège pas, par exemple, de la transmission. Donc, je considère que sur cette maladie, ce virus, on l'appelle comme on veut, nous étions et nous sommes encore des cobayes et qu'encore une fois, il faut contextualiser où le monde était bouclé et où moi, ce que j'observe, c'est qu'il y avait un taux de mortalité à Marseille qui était largement inférieur à celui du reste de la France. Ça, c'est la première chose. Et moi, je trouve que c'est hallucinant ce procès qui est fait à la chloroquine, parce que je vais citer Philippe Saint-Marco, dont le père était fonctionnaire, qui est un homme âgé, qui est un haut fonctionnaire, avec lequel j'ai eu cette conversation à plusieurs reprises, parce que je me sentais concernée au vu de mes différentes pathologies. Lui, son père travaillait au Sénégal. Il a pris de la chloroquine toute sa vie, parce que la chloroquine
mais
a été...
Mais pas dans la COVID.
Pardon ?
Pour le palu.
Mais tout à fait.
Mais on donne un médicament pour une pathologie. C'est pas la même.
Je vais terminer de parler. Et je trouve que ces médecins auraient dû se mobiliser lorsque... La médecin qui était à la tête du ministère de la Santé, à savoir Agnès Buzyn, nous a pris pour un con en disant qu'il n'y avait rien du tout. Oui, et à la fin, elle a quitté le navire. Donc moi, je trouve que se mobiliser 3 ans après contre un mec qui a sauvé des vies à Marseille, et je rappelle, où on a eu le moins de taux de mortalité, et ça c'est factuel.
Mais non, c'est faux.
On était les seuls à tester quand tout le monde disait qu'il ne fallait pas tester. Ça, c'était le seul qui testait,
qui faisait la queue, etc. Mais c'était le seul qui avait le matériel, avec tes subventions et tes impôts.
C'était le seul qui le faisait.
C'est vrai qu'on lui reproche.
Non, je suis désolée.
Après, on a testé tout
c'était
le monde.
Seul qui l'a fait.
C'est là où je
c'est pas le seul qui...
Non.
Il n'avait pas l'exclusivité
pas te
des
étudiants, etc.
Non,
mais je ne peux pas t'expliquer.
Alors,
on se moquait
de la
Marseille.
Exactement.
Après, ça a été, c'est devenu obligatoire.
L'IHU avait le matériel.
Oui, d'accord, mais c'est pas
le seul. Au départ, je vous rappelle qu'au départ, on n'avait pas de test. On n'avait même pas le matériel.
D'accord, on a bien compris.
Donc ça prenait à tel point,
On s'est moqué de ceux qui avaient un testament.
À tel point que quand on testait, il fallait 14 jours pour avoir le résultat. Souvenez-vous quand même de ça.
D'accord, mais
il fallait 14 jours.
Jérôme,
pas à Marseille parce qu'ils avaient le matos.
Non mais Jérôme, je suis d'accord avec toi. Non mais attends, je suis d'accord avec toi. Je pense que le match est terminé. Et Didier Raoult s'est trompé et c'est un naufrage parce que il se complaît dans sa tromperie en fait. Il a trompé les gens. Il s'est trompé et au lieu de le reconnaître, il continue à vouloir attaquer tout le monde, refusant d'ailleurs la contradiction.
Je défends, il n'attaque pas.
Refusant la contradiction, parce qu'il supporte pas les questions contradictoires, il supporte pas le débat, etc. Ce qui est quand même bizarre pour un scientifique, parce que la base de la science, c'est justement le débat, c'est confronter les résultats, etc. Là où comme Kaoter a raison, c'est vrai que au moment où il fait les tests, parce qu'il est le seul à pouvoir le faire, on se fout des Marseillais qui font ah vous avez vu il y a les jeunes qui veulent se faire tester. Alors après le gouvernement a demandé à tout le monde de se tester, même les enfants, puisque je rappelle quand même que on a demandé à des bébés, aux parents de bébés de les tester pour aller en crèche, etc. Donc ce qu'on a fait à toute la population, Raoul a fait un peu plus tôt que les autres. Et après sincèrement, on sait aujourd'hui l'hydroxychloroquine c'était pas la solution. On le sait, le match est terminé. Je veux dire, tous les scientifiques ont débattu. Tout le monde aurait aimé que ça marche, ça n'a pas marché. Il faudrait que Didier Raoult
le reconnaisse. Oui, mais de quoi on parle ?
Voilà, et on passe à autre chose.
Il faut savoir de quoi on parle.
Le problème, moi, je lui réponds.
Parce que le Covid, c'est une maladie de vieux, ça a tué les vieux. Et Marseille, c'est une ville plus jeune que d'autres.
Mais ça suffit pas de dire ça. Il y a eu moins de morts parce que les 30 000 malades sont allés à l'IHU et ils ont été soignés. Je suis désolée.
Mais ils ont été soignés avec quoi ? L'hydroxychloroquine, ça ne marche pas.
C'est ce que tu
comment dis. Tu peux dire ça alors
parce
que
jeune qui avait le Covid
alors
ne
que
pas.
Alors voilà, qu'il est prouvé scientifiquement ça l'hydroxychloroquine elle marche in vitro elle marche pas in vivo
ce qui avait des pathologies.
Moi j'aurais adoré que ça marche, mais ça marche dans un tube si tu veux, mais ça marche pas sur l'homme.
De quoi?
Ça marche sur des cellules de reine de singe, ça marche pas sur l'homme.
De quoi?
L'hydroxychloroquine.
Et pourquoi ça a été administré pendant 40 ans pour ceux qui allaient en Afrique alors?
Mais c'est pour la pathologie Covid, on parle de la tu as pas donné un produit antihypertenseur par exemple pour le diabète. Et pourtant, ça marche pour le diabète. Tu comprends la différence? Donc, quand il te dit, il y a des milliards de personnes qui prennent l'hydroxychloroquine, oui, et heureusement qu'ils la prennent, mais ils la prennent pas dans la Covid.
Ils la prennent pour
le Covid. Donc, il y a une espèce d'escroquerie intellectuelle que de dire ça en permanence, de s'enferrer dans un raisonnement qui est faux. On sait tous, on aurait adoré. Bah, moi, je fais partie des médecins.
Quoi qu'il en soit, c'est le passé.
Attends, juste,
pourquoi
je termine. Je fais partie des médecins qui, en mars, ont défendu cela. Et puis ensuite, on s'est aperçu très vite que ça ne marchait pas. Là, ça a été interdit. Parce que non seulement ça ne marche pas, mais c'est dangereux. Et lui a continué, s'affranchissant de toutes les règles. L'IHU a continué à faire des études sans comité de protection des personnes, sans comité d'éthique extérieur à l'IHU. C'est-à-dire qu'il faisait surveiller ses études par des gens de l'IHU, qu'il publiait dans l'IHU. Et c'est ces gens-là qui te parlent de conflit d'intérêts, mais ils sont dans un conflit d'intérêts gigantesque. C'est eux-mêmes qui surveillent tout. Donc ils truquent tout depuis le début. Et il y a un moment, si tu veux, où tu es obligé d'aller en justice. Parce que tu ne peux pas autoriser des choses qui font fi de tout ce qui fait l'encadrement même de la science. C'est pas possible. C'est pas de la poésie. Si on ne crée pas là. On est sur des protocoles, procédures qui doivent être respectées, qui ne le sont pas.
Ah oui. Je suis désolée, mais la médecine, c'est aussi de la recherche, et c'est comme ça qu'on avance en médecine et qu'on crée des nouveaux
médicaments. Mais pas en faisant,
la recherche, je suis d'accord avec toi. Mais la recherche, à tout le moins, tu fais le double aveugle. Quand au départ, il nous a vendu une étude qui était sur 26 cas, où on avait écarté les morts. Et où il nous a dit, mais plus l'échantillon est petit, plus ça parle. Aujourd'hui, il fait 30 000 cas en nous disant, plus l'échantillon est grand, plus ça parle. Sauf qu'il n'y a pas de double aveugle. C'est-à-dire que le patient sait ce qu'il prend, le médecin sait ce qu'il donne. Normalement, le médecin ne sait pas ce qu'il donne, le patient ne sait pas ce qu'il reçoit. Et c'est un comité extérieur qui analyse. Là, rien de tout ça n'est fait. Rien. Alors,
dans un instant, la réponse du professeur Consigny de l'université du 16e arrondissement et du 16e et demi. Université qui
je
préside
vais,
avec
ma science
avec honneur
répondre au professeur Marty. C'est donc un peu l'académie de médecine ce matin.
S'acharne-t-on sur le professeur Raoult? C'est la question qui est posée. Oui pour Charles et Kaoter, non pour Olivier et Jérôme. À votre avis, est-ce qu'il y a acharnement ou pas? Oui, il y a acharnement. 69-31.
C'est le patron.
Et la discussion continue dans les grandes gueules.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules, nous débattons ensemble du professeur Raoult, des attaques de la tribune qui demandent des sanctions contre le professeur Raoult. s'il est avéré qu'effectivement il a mené des essais sauvages, qu'il a mis la vie des gens en danger, le code de la santé prévoit 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, je crois, c'est ça ?
À 3 ans même.
Alors, la parole au professeur Consigny.
Je considère que le professeur Raoult est un excellent orateur. Il aurait fait un avocat remarquable, un homme politique remarquable. Il a, je trouve, une capacité de conviction, de retournement des arguments, une autorité dans l'expression remarquable. Je pense néanmoins, n'étant ni médecin ni scientifique, mais parcourant comme tout le monde la presse, je pense que il s'est effectivement gouré sur cette hydroxychloroquine. J'ai compris en plus qu'il était passé en chemin de la chloroquine à l'hydroxychloroquine, dont j'ai compris que c'était deux produits différents, et il a fait une espèce de tour de passe-passe entre les deux, ce qui déjà est un peu sujet à caution. Je l'ai entendu dire par ailleurs dans des archives, ce qui montre une certaine mécanique chez lui, des propos étonnants sur le changement climatique, où en fait il en vient un peu à expliquer presque qu'il n'y a pas vraiment de réchauffement climatique, qu'en fait dans le sud ça se refroidit et que le pôle sud regagne en glace. Donc il y a une certaine mécanique. Et donc je pense qu'il a pété un plomb, pour être clair, c'est un peu le sentiment que j'ai. Sans doute il visait le prix Nobel, sans doute il a une détestation qui doit... pas être complètement infondé contre
est-ce qu'il y a acharnement pour autant
contre les mandarins à Paris qui doivent être sans doute imblairables et donc voilà.
Plus grand mandarin.
Mais ceci étant dit, moi oui, je pense que est-ce qu'il y a acharnement ? Oui, je me suis mis dans
mais c'est pour que tu
je pense en tout cas, si vous voulez, que tous ces gens qui d'une manière très docte s'en prennent à Raoult sont les mêmes qui nous ont imposé une gestion que moi j'ai contestée en temps utile à l'époque du Covid, complètement conne, totalement excessive et totalement liberticide. Et je trouvais à l'époque que Raoult, c'est le seul mérite finalement que je lui reconnaîtrais, nous offrait une espèce de bouffée d'oxygène dans cette espèce de moment de crispation invraisemblable où on avait l'impression qu'on allait tous crever et que le ministère de l'Intérieur, si vous voulez, diligentait des hélicoptères de la gendarmerie nationale pour vérifier que les gens n'étaient pas sur les sentiers. Je vous rappelle qu'on a même, les archives sont là, on avait inventé la plage dynamique. On n'avait pas le droit de rester au même endroit sur une plage, il fallait bouger sur la plage et vous aviez des gens pour faire respecter ça. C'est là que vous comprenez d'ailleurs, sans faire de mauvais parallèles, tous les drames de l'histoire, toutes les atrocités, tous les crimes et les grands crimes historiques, c'est que vous avez des gens qui sont tellement cons qu'ils sont vraiment prêts à faire mais n'importe quoi pourvu que ça vienne d'une autorité supérieure qui leur dit oui, tu vas aller surveiller cette plage et tu vas vérifier qu'il n'y a personne. Parce que, tu comprends, c'est très dangereux d'aller à la plage. Donc on a vécu cette époque cauchemardesque et je dois dire que cette espèce de druide qui semblait sorti de l'imaginaire collectif des Français et qui admonestait des leçons au ministre de la Santé, ça faisait respirer un peu. Scientifiquement, je suis d'accord qu'il y a probablement une fuite en avant totale.
Rejeter l'enfer bureaucratique que nous avons vécu et toutes ces absurdités, commerce essentiel, non essentiel.
À l'époque, on n'avait pas le droit de contester
ça. Est-ce que j'ai le droit d'acheter une petite culotte pendant 2 ans ? Oui, mais 3 ans, non, parce que ça devient... Voilà, c'était ça.
Mais oui, bien sûr, tout.
Mais ça, on l'a dénoncé ici. Mais je pense qu'on a le droit...
Mais on était minoritaire à le dénoncer.
Je suis d'accord avec toi. Et on a le droit de reprocher à ceux qui sont toujours en place, puisque le pouvoir a été reconduit, nous avoir fait vivre cette absurdité démocratique, cet enfer démocratique.
Et de se vanter de l'avoir bien géré.
Alors que finalement, on n'a pas fait mieux ou moins bien que les autres. Mais aussi, on a le droit de dire aussi que ce qui est triste avec le professeur Raoult, c'est qu'il s'est enfermé dans une vérité parallèle. Et il n'en sort pas. Quand sa fille dit il est devenu le chef des complotistes, mais c'est triste pour lui.
Malgré lui.
Il valait mieux que ça. Que finir comme chef des complotistes.
Il aurait dû s'arrêter plus tôt. Reconnaître, tu vois, à sa place, Olivier, si on devait refaire un peu l'histoire, il aurait dû reconnaître son erreur.
Et oui.
Et se lancer en politique.
Non, mais pour rebondir.
Attends, je voudrais qu'on aille au 32-16. Écoutez Chantal. Bonjour Chantal.
Bonjour à tous. Bonjour.
Bonjour
Alors
madame.
Chantal, est-ce qu'on s'acharne contre le professeur Raoult, oui ou non ?
Alors pour moi, on s'acharne complètement contre lui. Je peux vous expliquer. Je voudrais bien que M. Marty, il m'écoute très bien. Parce que les médecins n'ont pas la science infuse. des erreurs, tous les médecins en font. Je suis la preuve vivante. Malheureusement, mon mari n'a pas survécu à la bêtise de certains médecins, hein, suite à des diagnostics, et cela, enfin voilà. Pour moi, je vais vous dire sincèrement, le professeur Aout a sauvé la vie d'une vingtaine de personnes, une famille entière, avec l'hydroxychloroquine. Je dis bien parce que j'ai été témoin de très près. Toute la famille a attrapé ça. Ils sont allés à l'institut, se sont fait soigner, ils ont été guéris. Ils n'ont plus jamais attrapé le Covid. Maintenant, moi, quand j'ai attrapé le Covid, on me donnait 3 jours à vivre. 3 jours. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai signé une décharge, je suis partie. Je suis allée voir mon médecin. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Chantal, va à l'institut. Je suis allée. J'ai fait la panoplie de professeur Aout. On y est, on y croit. Mais nous, quand on l'a vécu, on est obligé d'y croire. Parce que moi, il m'a sauvé la vie. Et les docteurs, les pneumologues, et tout y coin, dans les cliniques privées, les hôpitaux, ils me voyaient mourante, 3 jours à vivre. Mais vous vous rendez compte, hein, ça fait 1 an et demi que j'aurais dû mourir. Allez, depuis 1 an et demi, je suis toujours là.
Visiblement, ça va mieux. Hein.
Calmez-vous.
Peut-être que Chantal est morte sans le savoir.
Oui. Moi, je vous le dis, j'ai une pêche d'enfer. Et oui, ça sent mieux. Vous savez aussi bien que moi, moi, je vous le dis sincèrement, ma fille est militaire. Elle lui a fait les 3 vaccins du Pfizer. À 38 ans, ma fille a fait un AVC. Voilà. Et c'est pas la seule. Croyez-moi que c'est pas la seule. Moi, j'étais contaminée par ma nièce qui venait du Nord. Elle avait le Covid, elle nous l'avait même pas dit.
Putain. Ouais. C'est les gens du Nord, faire confiance.
Non, je ne voudrais pas qu'on me coupe parce que M. Marquis, il est bien gentil. Ouais. Mais quand je l'entends, il me fait monter la tension.
Alors, elle va encore monter. Prenez quelque chose parce que je vais vous répondre.
Non, je vais boire un bon verre d'eau fraîche.
Voilà, vous
prenez de la chloroquine.
Trempez-y les pieds peut-être, ça vous fera du bien.
Non, mais franchement, c'est ahurissant.
Madame, on n'est pas dans de la religion, malheureusement, et on est dans de la science.
Oui,
donc vous me dites, laissez-moi juste vous répondre très calmement. Vous me dites, il a guéri 20 personnes d'une famille, je l'ai vu. Je vous rappelle que fort heureusement, c'est une pathologie dont 99,5% des gens guérissent seuls. Seuls. Donc quand vous dites, il nous a guéri avec l'hydroxychloroquine, excusez-moi, mais ce qui guérit, c'est juste votre organisme qui lutte contre la Covid. Attendez, madame, juste je vous réponds. Alors après, quand vous avez des pathologies associées, quand vous êtes âgé, etc., il peut y avoir des risques. Et puis surtout, quand on observe uniquement les préceptes du professeur Raoult, à savoir ça passe par les mains et qu'on ne surveille pas sa saturation, quand on sait que c'est une pathologie qui, au contraire, est éminemment aérosolisée et qui va impacter le tissu pulmonaire, ben là, on risque effectivement de s'aggraver. Et puis surtout, quand on ne se vaccine pas, alors vous me dites, ma fille a fait un AVC, mais... Madame, chaque année il y a des AVC, c'est ce que je vous donne, ce que j'espère. Madame, je vous réponds juste.
Oui, c'est un peu facile.
Ce que j'espère, madame, c'est que déclaration a été faite. À ce moment-là, il y a une enquête qui va être faite par la pharmacovigilance. Et là, on déterminera s'il y a corrélation ou causalité. La corrélation étant ce qui arrive après la vaccination, la causalité étant l'effet prouvé de la vaccination sur la pathologie secondaire.
Oui, docteur Martin,
il n'y a pas de cas de causalité prouvée.
Si tu veux être de bonne foi, moi je voudrais dire quand même quelque chose. Si le docteur Martin veut être de bonne foi sur ce sujet, tu sais combien c'est parfois très long. Faire reconnaître la causalité entre un effet toxique d'un médicament et ce médicament, y compris judiciairement. Et tu sais, parce qu'on l'a vu dans Servier, où on a vu que les laboratoires Servier s'étaient comportés d'une manière absolument abominable.
Mais je dis pas le contraire.
Et criminelle sur le Mediator.
Exactement.
Tu sais à quel point les labos peuvent être même d'une mauvaise foi criminelle sur ces sujets-là. Et donc moi, quand même, est-ce que tu peux reconnaître que on doit faire une place aux résultats empiriques qu'on peut avoir d'un certain nombre de gens qui, tout à coup, sont un certain nombre important à avoir consommé un médicament ou s'être fait administrer tel ou tel vaccin et sont un certain nombre important à ressentir un effet secondaire.
Mais je te réponds très facilement. Toute la question est de savoir, quand tu as vacciné 70% d'une population, dans ces 70% de la population, tu as la même proportion d'infarctus, d'AVC, etc., que dans la population non vaccinée. Est-ce que dans ta cohorte vaccinée, tu as plus d'infarctus et d'AVC? C'est toute la question qu'il faut se poser.
Oui, ben
en l'état actuel de la science, il n'a pas été prouvé que tu avais plus d'infarctus dans la population.
Parce qu'ils ne sont pas allés chercher.
Le fameux vaccin.
Tu en as beaucoup pourquoi? Mais non, mais tu en as beaucoup pourquoi?
Parce qu'ils n'ont pas fait d'études sur ça, parce que ça ne les intéresse pas de mettre en avant qu'il y a un effet de cause à effet entre le vaccin et certaines réactions.
Mais c'est pas vrai. Comment tu peux dire ça? Tu as les autorités indépendantes. Mais tu as la chance d'être dans un pays où tu as les autorités indépendantes qui font que ça.
Il n'y a aucune étude qui est sortie.
Tu as une ANSM. Mais bien sûr.
Il y a
eu
l'affaire du médiateur dans le semestre.
Je suis désolé.
Mais plus maintenant, justement. Maintenant que tu vois, on a mis en place tout un tas de verrous par rapport à ça.
Oui, mais le
c'est très simple. Tu as vacciné plusieurs. Tu as vacciné X millions de personnes dans un pays. Dans cette proportion-là de patients, est-ce que les incidents sont plus nombreux qu'ailleurs?
Est-ce que je peux te poser une question?
Donc,
Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite de la même manière de ce que tu viens de nous annoncer sur les gens qui ont été vaccinés avec pathologie ou sans pathologie sur les effets secondaires? Non. Sa fille, on en parlait tout à l'heure en off. 8 mois, elle n'a pas eu de goût. Il y a des gens qui ont des effets secondaires.
Ça s'appelle un Covid long.
Oui, mais le Covid
long. Ça s'appelle un Covid long.
C'est des effets secondaires qui sont aussi.
De la Covid.
Non.
Mais pas du vaccin. Mais non, tu mélanges tout.
Mais qu'est-ce qu'on en sait?
Mais parce que dans le vaccin, il te reste rien à l'organisme. Rien.
Trop facile.
Trop facile.
Moi, ce que je regrette, 10% des cas.
Non, mais il faut dire pour nos auditeurs, parce que c'est important, il y en a plein qui sont inquiets.
Ce que je regrette, c'est que 3 ans après, on laisse Agnès Buzyn tranquille.
10% des cas de Covid donnent des Covid longs.
10%.
Non, mais c'est fini.
Buzyn, elle a été poursuivie en justice, mais elle s'est très bien défendue.
Oui, avec un très bon avocat.
Avec un très bon avocat, le plus cher de Paris.
C'est fini. Et je remercie Patricia d'avoir été
avec nous. Chantal, je vous salue.
En charge par l'État, naturellement.
Alors,
naturellement.
S'acharne-t-on sur Didier Raoul, oui ou non? On envoie le résultat final, s'il vous plaît. On va regarder. 68-32, oui, c'est
vous
de l'acharnement.
Au tapis.
Voilà.
Ouais. On savait qu'on allait perdre le match.
Ouais.
Bonjour Estelle Denis. Le débat va continuer sur RMC et RMC Story, bien sûr, avec Estelle.
Salut Alain, salut les GG. Écoutez, on va parler bien sûr de Gabriel Attal. Hein, c'est l'actu du jour, ça, qui propose un plan pour lutter contre la fraude sociale et notamment la fraude au RSA. Le gouvernement se trompe-t-il de cible? On en parle à midi et on vous attend au 32-16. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a plusieurs quartiers parisiens qui interdisent la vente d'alcool en supermarché et en supérette après 17h. Voilà, finito, plus d'alcool. Est-ce qu'il faut faire la même chose partout en France pour éviter, éviter les incivilités, par exemple, des gens alcoolisés sur la voie publique? On se posera la question à 13h.
Il y a qu'à interdire aussi à partir de midi jusqu'à 14h, de 17h à 21h.
C'est un pays de liberté.
C'est interdit de boire dans la voie publique, en fait. Il faut le savoir déjà, ça, c'est interdit de boire dans la voie publique. C'est
enfin, ça, les gens le font. Il suffit d'aller sur les quais de Seine, le soir.
À Marseille, partout.
Quand il fait beau dehors, les gens boivent dehors.
Surtout les gens de gauche.
Et puis enfin, c'est la fête des voisins vendredi.
Ah
ben oui. Est-ce que vous avez préparé votre petite salade, cake, Alain, votre bouteille de rosée? Non.
Je dis, reste chez moi.
Ah, vous restez chez vous. Bon. Eh bien, écoutez, on va se poser
il s'enferme chez lui.
Oui, on va se poser cette question à 14h. Est-ce qu'on doit vraiment être ami avec ses voisins? Est-ce que c'est important d'être ami avec ses voisins? Dites-nous si vous avez connu quelques conflits de voisinage. Ah, Charles?
Ah non, moi je ne parle à personne.
Il est allergique aux voisins.
Je parle à personne, je fuis mes voisins, absolument.
Tu sais qu'il y a de plus en plus de procès, de bagarres à cause de conflits de voisinage.
Non, incroyable. Moi je voudrais avoir une entrée dédiée, si tu veux.
Son ascenseur arrive directement dans ton appartement.
Non, mais directement.
L'appart new-yorkais.
Je fais comme si je ne parlais pas français quand je passe dans
le lui, un ascenseur réservé pour lui.
Allez, 32-16 pour agir avec Estelle. Bonne émission, rendez-vous demain à 9h.